Cinésique Radio, le panorama des BO par Benoît Vazirico.
Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et notes et à nous écrire via Cinésique sur Facebook ou Twitter. Ce programme donc est conçu depuis notre lieu de confinement. J'espère qu'il vous divertira en cette période. En tout cas, il est consacré aujourd'hui aux huis clos dans le cinéma.
Il m'a invité dans sa maison. Je pourrais enfin avoir la paix.
Panorama BO, les huis clos au cinéma. Et avec moi, Thibaut Vic. Thibaut, bonjour.
Bonjour Benoît.
Alors, les huis clos au cinéma, donc j'imagine qu'en ce moment, vous êtes aussi dans votre huis clos personnel.
Oui, tout à fait. Oui, comme tout le monde, on épie ses voisins depuis notre fenêtre. Et voilà, on ouvre, on ferme les rideaux.
Eh bien, épier ses voisins depuis sa fenêtre, c'est un peu ce que fait justement James Stewart dans notre première sélection de ce panorama, Fenêtre sur cour, avec la musique de Franz Waxman. James Stewart, donc, à cause d'une jambe cassée, c'est un reporter photographe qui est contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant. Il s'aperçoit qu'il peut tirer parti de son immobilité forcée en étudiant le comportement des habitants de l'immeuble qu'il occupe. Il épie donc ses voisins d'en face et soupçonne un voisin d'en face d'avoir assassiné sa femme. Hitchcock, donc, construit son huis clos en plaçant la caméra dans l'appartement du personnage. Le spectateur va donc épier les différents protagonistes à travers les yeux du personnage central. Un film en pleine subjectivité sur le voyeurisme, donc. Et dans cette démarche, l'intégralité des musiques du film, toutes spécialement conçues par Franz Waxman, sont intradiégétiques. C'est-à-dire que toutes les musiques de Franz Waxman dans ce film sont entendues par le personnage. Les sources des musiques proviennent des musiciens situés dans les appartements en vis-à-vis. Franz Waxman retrouve là une dernière fois Alfred Hitchcock après Rebecca en 40, Soupçon en 41 et le procès Paradine en 47. C'est l'année suivante, après Fenêtre sur cour, que Hitchcock rencontre Bernard Herrmann sur Mais qui a tué Harry en 55. Et on sait après ce que deviendra la collaboration Hitchcock-Herrmann. Alors là, donc, c'est Fenêtre sur cour avec Franz Waxman. Une partition, donc, qui est à consonance jazz.
Ça swing comme musique, c'est une musique qui tient pas en place, mais qui correspond aussi aux divagations de l'esprit du personnage, puisqu'il est là et il est obligé de s'évader à travers son imagination, ce qu'il voit et ce qu'il pense. Donc il y a beaucoup de swing, beaucoup de mouvement dans cette musique. Il y a aussi de la sensualité dans le thème avec Lisa, donc qui est sa maîtresse, avec du piano, du saxo. Et l'attention est toujours ailleurs et l'imagination part dans un autre monde sans arrêt dans ce film qui est finalement assez haletant.
Dans ces consonances jazz, on peut parler de contrepoint. La musique se met en décalage du suspense qui est en jeu. Et on va entendre dans cet extrait de Franz Waxman, donc pour Fenêtre sur cour, la sensualité dont tu parlais, Thibaut.
Thank you.
À l'instant, la musique de Jacques Loussier pour La vie à l'envers, avec toujours une pointe de jazz. Il s'agit en 64 du premier film de Alain Gessua. C'est Charles Denner qui mène avec son ami une vie sans problème. Mais le jour de son mariage, il passe du bonheur à une crise de folie en un instant. Il se renferme sur lui-même et se cloître chez lui. Huis clos donc dans son appartement, Jacques Vallin donc, incarné par Charles Denner, va de plus en plus dans l'évolution du film se renfermer chez lui et dénuer tout, enlever les meubles, enlever la télé, tout enlever, pour être dans la pure nudité de son appartement, dans le confinement le plus total, la vie à l'envers donc, comme le titre l'indique, c'est revenir dans une nudité totale, la vie à l'envers qui est l'adaptation du propre livre de Alain Gessua. Alors on entend une musique jazz, très influencée par Charles Mingus, avec un air comme ça qui tourne en spirale, et cette justement comme cette ostinato qui tourne dans cette musique de jazz correspond à l'enfermement du personnage. Première collaboration de Jacques Loussier avec le réalisateur qu'il retrouvera plus tard en 67 pour Jeu de massacre. Alors on a entendu là la musique de Jacques Loussier mais dans une interprétation moderne, récente, revisitée par Big Yum Yum, le duo de Fabio Viscogliosi et Sylvain Kölsch. Voilà donc une revisitation moderne de cette partition originale écrite par Jacques Loussier. Autre huis clos, celui-ci en 71, c'est Le Chat, avec Jean Gabin et Simone Signoret dans le huis clos étouffant d'un petit pavillon de banlieue épargné par la démolition. Un vieux couple sans enfants se déchire. Tiré du roman homonyme de Georges Simenon, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur Georges Simenon qui est un peu l'auteur qui a inscrit des drames policiers dans des huis clos régulièrement. Et donc là, c'est Jean Gabin et Simone Signoret confinés dans Le Chat avec la musique de Philippe Sard. C'est la première collaboration de Philippe Sard avec le réalisateur Pierre Granier-Defer avant de le retrouver 16 fois jusqu'à Le Petit Garçon en 95, incluant La Veuve Coudert en 71, Le Train en 73 ou encore Adieu Poulet en 75. Le Chat, donc, musique de Philippe Sard. Thank you. Après Le Chat, nous retrouvons ici Philippe Sard. Philippe Sard qui est un peu le spécialiste, hein, le compositeur spécialiste du confinement, avec à l'instant La Grande Bouffe de Marco Ferreri en 1973. Donc Le Chat, La Grande Bouffe, deux musiques de Philippe Sard. Le Chat plus mélancolique et ici beaucoup plus festif. Hein. Parfois dans le huis clos, la musique de film, le compositeur, son rôle c'est d'élargir le cadre, créer de la profondeur. Et donc parfois, la musique peut avoir de l'ampleur pour comme sortir de ce huis clos confiné. Donc soit la musique peut être angoissante pour aggraver la situation, ou soit elle peut s'élargir pour élargir justement le cadre strict du confinement. Philippe Sard, on le retrouvera tout à l'heure d'ailleurs, parce que donc comme je le disais, c'était un des spécialistes qui a beaucoup fait du confinement. On aurait pu aussi passer des musiques des films de Claude Sauté, hein, dans le confinement bourgeois des appartements. On peut aussi toute la filmographie de Jacques Doyon aussi. Régulièrement, donc les réalisateurs avec lesquels Philippe Sard a travaillé a pu exercer le huis clos. Donc là, c'était La Grande Bouffe, hein, Marco Ferreri, avec Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Hugo Tognazzi ou encore Michel Piccoli, quatre amis gourmets et gourmands qui s'enferment dans un week-end à la campagne et organisent une bouffe gigantesque, comédie tragique et crue, critique féroce de la société consumériste. Et Philippe Sard retrouve là Marco Ferreri une seconde fois après Lisa en 72 et il le retrouvera à six autres reprises jusqu'à en 83 L'Histoire de Pierrat. Voilà pour Philippe Sard avec Ferreri, La Grande Bouffe. On retourne aux États-Unis avec Le Limier de Joseph L. Mankiewicz. Alors il s'agit là d'un huis clos policier, une sorte de Cluedo en fait. C'est une comédie policière en lieu confiné. Dernier film de Joseph Mankiewicz qui s'éteigna en 93 à l'âge de 87 ans. Alors là, son dernier film date de 72 avec à la musique John Addison. Alors pour le pitch, c'est un riche auteur de romans policiers anglais qui invite un coiffeur londonien d'origine plus modeste à lui rendre visite dans sa somptueuse résidence. Maniaque de l'énigme et de la mystification, il propose à son invité de simuler un cambriolage pour toucher de l'argent des assurances. Une comédie donc policière, et John Addison retrouve Joseph L. Mankiewicz après Guépier pour trois abeilles en 67. Alors dans ce type cluedo policier, en huis clos, on peut penser aussi à un film français plus récent de François Ozon qui s'appelle Le Huit Femmes, que je n'ai pas choisi dans ce panorama, mais on aurait pu aussi le considérer comme un huis clos. Alors dans Le Limier, alors je vous parlais des musiques de huis clos qui élargissent le cadre confiné, et bien c'est le cas là. John Addison, pour Le Limier de Mankiewicz, a signé une partition plutôt baroque, notamment avec cette ouverture. We'll be right back. Magnifique thème avec la clarinette de Philippe Sard à l'instant. Puis on entend aussi quelques sonorités cristallines qui sont en fait un glace harmonica, harmonica de verre. Alors Philippe Sard, le compositeur pour Le Locataire que l'on vient d'entendre de Roman Polanski, a utilisé le glace harmonica pour évoquer la verrière par laquelle le personnage se jette à un moment donné. Et la clarinette correspond à la solitude de ce personnage. Et donc glace harmonica, clarinette, hein, sonorité singulière, choix d'instrument donc qui prime sur la partition, puis cette écriture de mélodique très propre à Philippe Sard. On retrouve donc là Philippe Sard, hein, après deux films tout à l'heure. On continue un autre huis clos en appartement, avec cette fois-ci Michel Blanc dans Monsieur Ir, en 1989, avec la musique de Michael Nyman, l'anglais. Monsieur Ir, donc incarné par Michel Blanc, vit depuis des années dans le même appartement, il attend. Et Alice, incarnée par Sandrine Bonner, et sa voisine d'en face, elle se rend compte brusquement que ce voisin l'observe depuis des mois. On pense évidemment à Fenêtre sur cour, hein, dans ce côté du voisin qui épie par sa fenêtre sa voisine. Le drame Monsieur Ir est adapté de Simenon, hein, on retrouve là Georges Simenon, et le compositeur anglais Michael Nyman est le compositeur régulier de Peter Greenaway. Dans ce film-là, Monsieur Ir, Michael Nyman a pu utiliser sa musique répétitive pour également illustrer le ressassement de la solitude du personnage. Il faisait la rencontre là du réalisateur Patrice Lecomte, hein, sur ce film-là, il le retrouvera l'année d'après sur Le mari de la coiffeuse. Patrice Lecomte, Michael Nyman, donc deux films ensemble, dont ce Monsieur Ir en 89. À l'instant, musique de Alejandro Amenábar pour Les Autres. On entre de pied en pied dans les années 2000 pour la thématique des huis clos avec dans notre sélection donc Les Autres, où le réalisateur Alejandro Amenábar compose lui-même la partition de ce film. Il le refera à plusieurs reprises et il l'avait déjà fait avec Thésis et Ouvre les yeux. Avec Nicole Kidman, en 1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l'île de Jersey, Nicole Kidman, qui incarne Grace, avec ses deux enfants, vivent dans cette immense demeure. Les deux enfants, Anne et Nicolas, sont atteints d'un mal étrange et ils ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Le réalisateur donc signe cette musique très angoissante, hein. On est vraiment dans la thématique du film d'horreur et donc de la partition angoissante, Thibaut.
C'est angoissant, mais c'est une tension qui va en augmentant. Parce qu'on est, on reste quand même assez loin d'une musique hollywoodienne de films à frissons. Ici, on est plus sur le drame familial, sur le drame psychologique. C'est d'abord une BO au tout début qui est très aérienne et aérée. On entend le souffle du vent, enfin on entend quelque chose. On entend la musique de l'extérieur de cette maison. Mais il y a aussi beaucoup de propreté, comme le soin que Grace apporte à garder ses enfants en sécurité. Et puis il y a une menace, voilà, qui se dilue, qui est impalpable. Et on a cette alternance entre une sérénité et puis quelque chose de plus tendu. Mais ce qui est surtout frappant dans cette musique, c'est cette écriture qui est vraiment claire, comme de l'eau de roche. On entend vraiment tout clairement, et la force de cette musique réside dans sa simplicité et aussi dans des harmonies qui changent pas très rapidement, ce qui fait qu'on a le temps vraiment de s'imprégner de tout ça. C'est une sorte de musique qui se régénère comme une musique nourricière, je dirais, pour aller plus loin, et c'est ça qui fait que le suspense sonne de façon vraiment ample et que la brume s'installe.
Un an après Les Autres, il y a Panic Room de David Fincher avec la musique de Howard Shore. Alors Howard Shore, hein, le compositeur régulier de David Cronenberg, on aurait pu, c'est vrai, dans ce panorama des huis clos convoquer des films de David Cronenberg. Alors dans la thématique des huis clos d'appartement, il y a Panic Room du tandem David Fincher-Howard Shore avec Jodie Foster, Kristen Stewart et Forest Whitaker. Alors David Fincher instaure deux huis clos, un huis clos dans le huis clos, si je peux dire. C'est à la fois une demeure new-yorkaise et la Panic Room se situant à l'intérieur de la chambre de cette demeure. Et donc, il y a les cambrioleurs qui rentrent dans la maison pendant que les deux personnages principaux se retrouvent piégés à l'intérieur de cette Panic Room, donc cette pièce sécurisée. C'est le huis clos à l'intérieur du huis clos, donc.
Oui, et d'ailleurs, la mise en scène virtuose passe par toutes les pièces de la maison, cette maison qui est immense, et cette Panic Room qui est un espace vraiment réduit. Et dans cette musique, on retrouve des échos, donc ce qui fait référence à tout le volume de cette maison, beaucoup de graves, donc comme la menace, quelque chose de très haletant, en complète opposition avec ce qu'on a entendu avec Alejandro Amenábar, donc vraiment quelque chose de plus gras, beaucoup de cuivre à la Howard Shore. Et puis c'est une musique qui se fait un peu métallique, avec un peu des relents de cette porte blindée de la Panic Room, et aussi du matériel qu'utilisent les cambrioleurs dans la maison. Mais en fait, la moindre action du film prend énormément d'ampleur à travers la musique, et il y a une vraie continuité entre ce qu'on voit à l'image et ce qu'on entend, puisque la moindre action vient d'une idée. C'est une idée d'abord qui germe, donc on entend cette germination des idées à travers des trémolos de cordes, et puis ensuite on passe à l'action. On n'est plus dans ce moment où on réfléchit à ce qu'on va faire, on est vraiment dans l'adrénaline pure, et on se lance, donc Jodie Foster ou sa fille qui passe à l'action. Et voilà, c'est une BO de bourdonnement, de cuivres martiaux, avec des résonances, des sonorités qui grouillent, et une tension qui jamais n'est assagie.
Adrénaline, bourdonnement, dernière collaboration de Howard Shore avec David Fincher après Seven et The Game. Panic Room. On entend également des bourdonnements dans Bug à l'instant. Peut-être l'une des meilleures partitions de Brian Tyler, ici pour William Friedkin. C'est la deuxième collaboration entre Tyler et Friedkin après Traqué, un film de poursuite en 2003. Et donc là, en 2007, c'est un film de confinement, un huis clos de Agnès, incarnée par Ashley Judd, qui vit dans un motel désert, seule, hantée par le souvenir de son enfant kidnappé plusieurs années auparavant. Et elle redoute la visite de son ex-mari violent. C'est un univers coupé du monde, elle se cloître de plus en plus chez elle et devient, enfin dans le motel plutôt, et devient victime d'hallucinations et d'un sentiment paranoïaque. C'est presque une métaphore de la parano des États-Unis à ce moment-là. Et Brian Tyler a utilisé des sons, des expérimentations sonores, des instruments insolites pour exprimer un certain minimalisme en jouant sur la dissonance. La dissonance, c'est ce qui vous plaît dans la musique de film en général d'ailleurs, Thibaut.
Oui, et là, la dissonance crée un malaise énorme. C'est un vrai chaos, cette musique, ça part dans tous les sens, mais les thématiques du film sont tellement larges aussi. Ça parle de la surveillance de masse, des technologies avancées de l'armée, de théories du complot, de la peur même organique d'être enfermé, de se retrouver face à des corps étrangers, donc ces insectes qu'elle imagine à l'intérieur de sa peau et qui portent et qui ont été envoyés par le gouvernement américain. Il y a ces hallucinations aussi, et donc on est vraiment dans un univers de mirage, d'accès, de peur, de colère, quelque chose qu'on peut pas anticiper du tout, et c'est en cela que cette musique est extraordinaire. On a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est pas réel, ce qui est acoustique et ce qui ne l'est pas, avec on a des boucles sonores, des salves électro, des chambres de résonance, des colonies de sons qui s'approchent, qui s'éloignent. On a à la fois une spatialisation du son et un jeu sur les timbres qui est impressionnant.
Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Panorama des musiques de huis clos dans le cinéma, c'est terminé. On va terminer avec une dernière sélection, celle-ci avec la musique de Gabriel Yared pour Juste la fin du monde, avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Marion Cotillard. C'est une famille dans leur maison, et après 12 ans d'absence, l'écrivain Gaspard Ulliel retourne dans ce village natal et annonce à sa famille, il n'y parviendra pas, sa mort prochaine. Les trouvailles du cercle familial se situent donc dans l'enceinte de la maison, dans ce lieu confiné, dans ce huis clos. Xavier Dolan avait déjà expérimenté le huis clos en partie dans Tom à la ferme, et il retrouve également Gabriel Yared après Tom à la ferme, qu'il retrouvera d'ailleurs sur son film américain Vie et mort de John F. Donovan. Juste la fin du monde, c'est peut-être le film de Xavier Dolan, paradoxalement, en huis clos, et paradoxalement, le film de Xavier Dolan avec le plus de lyrisme musical, le plus d'ailleurs de musique de film originale en quantité.
C'est une musique qui se base sur le courant. On a toujours l'impression qu'il y a un courant aquatique, et ce flux, ça permet aussi de retarder l'annonce que Louis a faite à sa famille et qu'il ne fera pas, donc avec un piano très, très mélancolique, des longues tenues instrumentales, notamment avec des solos de bois.
Juste la fin du monde, donc, dernière sélection. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos podcasts donc sur les plateformes, Cinésic Radio. Il y a un podcast sur Louis de Funès récemment, un podcast pour les soignants et soignantes au cinéma, etc. Il y en aura d'autres dans les jours et semaines qui viennent. Merci Thibaut. Et à bientôt.
À
Juste la fin du monde, on termine avec cette musique de Gabriel Yared.